Cela arrive malheureusement beaucoup trop fréquemment que des églises locales soient frappées par des tensions, des conflits, voire des schismes. C'est le témoignage d'un grand nombre de pasteurs que la plus grande peine qu'ils ont connue dans leur ministère, ce sont les conflits par lesquels ils sont passés. Si vous avez fait partie d'une église à un moment où elle a connu une période de turbulence, vous chérissez sans doute l'unité, l'harmonie, la fraternité dont nous jouissons actuellement par la grâce de Dieu au sein de notre communauté de l'Église protestante évangélique de Bruxelles-Woluwe. En fait, vous avez hâte de retrouver le présentiel afin de vivre ces relations harmonieuses de façon plus authentique et intense. La paix qui se vit au sein d'une église locale est on ne peut plus précieuse, mais elle est aussi fragile. Comment conserver cette paix? Notre passage de ce matin ne répond pas de manière exhaustive à cette question, mais il va loin pour mettre en place pour nous un code déontologique destiné à favoriser cette paix. Prions ensemble. Juste avant notre passage, nous lisons « Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et la persévérance du Christ. » Notre Dieu, notre Père, combien nous te remercions pour ton amour à notre égard, démontré dans la mort de Jésus-Christ à notre place. Puisque nous sommes en règle avec toi, graciés malgré nos nombreuses fautes, nous voudrions te glorifier dans notre façon de vivre en tant que communauté. Donne-nous de savoir ce que cela veut dire dans le concret. Et donne-nous les forces dont nous avons besoin afin de faire preuve du même genre de persévérance que le Christ lui-même. Et c'est en son nom que nous t'en prions. Amen. Il s'agit dans ce code déontologique de commandements, non pas d'options, ni de conseils, ni de recommandations, mais d'injonctions communiquées par l'apôtre Paul et provenant ultimement de Dieu. Dans le contexte précédant immédiatement notre passage 3-4, nous sommes persuadés dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez encore ce que nous vous enjoignons de faire. Et puis notre passage lui-même, verset 6, nous vous enjoignons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner, etc. Chapitre 3 toujours et le verset 10, en effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous donnions cette injonction. Et le verset 12, nous enjoignons à de tels gens, nous les y encourageons, etc. Nous devons agir conformément à ce code déontologique qui nous est présenté ce matin. Et si vous ne croyez pas encore en Jésus-Christ, nous sommes très heureux que vous suiviez à ces moments avec nous. Et je me permets juste d'expliquer à votre intention que lorsque je dis que nous devons agir de telle et telle façon, ce n'est pas en vue de gagner le mérite auprès de Dieu qui ferait en sorte que nous soyons acceptables à ses yeux. Ça ne serait pas possible. Non, nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes en bonne relation avec Dieu uniquement sur la base de la croix de Jésus-Christ, la mort de Jésus à notre place. Mais puisque nous sommes graciés, puisque nous sommes en bonne relation avec Dieu, nous ne vivons pas n'importe comment. Et ce code déontologique comporte 4 engagements. D'abord, nous devons éviter tout contact rapproché avec les indisciplinés. Nous devons éviter tout contact rapproché avec les indisciplinés. Le verset 6. Qu'est-ce qui menace la paix d'une église locale? On pense à la persécution. On pense à des faux docteurs qui s'infiltrent parmi l'assemblée et commencent à miner l'évangile qui nous unit. On pense aussi à des croyants qui sèment le trouble de par leur comportement. Lisons le verset 6. Nous vous enjoignons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans l'indiscipline et non pas selon la tradition reçue de nous. Qui sont ces indisciplinés? Il s'agit de croyants, tout frère, je viens de lire, tout frère qui vit dans l'indiscipline. Un indiscipliné n'est pas quelqu'un de peu organisé ou de peu appliqué dans la gestion de ses dossiers, ni même simplement quelqu'un qui est paresseux. Il est question de quelqu'un qui est insoumis dans sa façon de mener la vie chrétienne. Il fait partie de l'Église, mais en même temps, il n'est pas conforme. Il est indiscipliné dans le sens de ne pas respecter ses obligations, notamment ici en matière de travail. Et cela au point de perturber la communauté, de déstabiliser la paix de l'Église. Un peu plus loin, au verset 11, nous lisons concernant ces indisciplinés. Au lieu d'agir, ils s'agitent ou bien se mêlent des affaires des autres. Voici donc le profil des indisciplinés au sein de l'Église de Thessalonique. Ce sont des personnes qui refusent de travailler pour gagner leur pain, qui vivent au crochet d'autres membres de l'Assemblée et qui utilisent leur temps libre pour se mêler des affaires des autres au sein de l'Assemblée. Mais il s'agit de frères en Christ. Soyons au clair sur la catégorie de péché en question. Pour certains péchés, on peut décider de fermer les yeux. Un frère dit haut et fort devant d'autres personnes, mais dans ton dos, qu'il t'a vu en centre-ville sans porter de masque. Et en fait, le frère en question s'est trompé. Il t'a confondu avec quelqu'un d'autre. Alors, comment est-ce que tu vas réagir? Tu ne vas pas forcément exiger que le frère demande pardon, qu'il répare son tort. Tu peux choisir de fermer les yeux et de pardonner au frère dans ton cœur et d'en rester là. Je vous renvoie à 1 Pierre 4, verset 8. L'amour couvre une multitude de péchés. À l'autre bout du spectre, il y a des péchés gravissimes. Cambriolage, adultère, meurtre, apporter un faux enseignement et diviser l'Église sur cette base. Le comportement des indisciplinés se situe entre les deux. On n'est pas en train de parler du pire des péchés possibles. Mais on ne peut pas fermer les yeux sur l'indiscipline. En fait, verset 6, face à l'indiscipliné, on doit s'éloigner, prendre ses distances, y compris en période sans COVID. Qu'est-ce que cela veut dire? Il semble, au regard de la suite du passage, que l'indiscipliné fait toujours partie de l'Assemblée. Si nous étions en présentiel, il pourrait être là, légitimement là, en train de bénéficier de l'enseignement. Mais nous n'aurions pas le droit d'agir comme si de rien n'était. Il y aura un froid entre l'indiscipliné et nous, et il faudrait éviter tout contact rapproché. Est-ce qu'on le saluerait? Oui, me semble-t-il, par souci de courtoisie. mais sans plus. Est-ce qu'ils pourraient exercer des responsabilités au sein de l'Église? Participer au repas du Seigneur? Je ne le pense pas. Est-ce qu'ils seraient présents lors des réunions de membres? Je ne sais pas. Mais l'un des spécialistes pense qu'un indiscipliné devrait être privé du droit de vote. Est-ce qu'il pourrait participer aux agapes qui ont régulièrement lieu le dimanche midi en période sans Covid? Est-ce que nous l'inviterions chez nous pour prendre le repas du midi à la maison? Non, me semble-t-il. On se tient à distance, verset 6. Cela fait partie du code déontologique destiné à promouvoir la paix de l'Église. Alors, qui pourrait être dans cette catégorie d'indisciplinés dans notre contexte? Il me semble que l'exemple précis de notre passage ne s'appliquera que rarement à notre Église, dans la mesure où la société pourvoit normalement un filet de sécurité. En principe, un membre de l'Église qui fait partie de la société aura normalement de quoi se mettre sous la dent, qu'il travaille ou non. Mais voici des exemples potentiels, quoique toujours hypothétiques, à titre d'application à notre contexte. Ces exemples s'inspirent de cas réels, mais sont suffisamment modifiés pour que l'identité de la personne ne soit pas repérable, ou ils sont tirés d'un passé suffisamment lointain ou d'un tout autre milieu. Cela pourrait peut-être être le croyant qui profite de la générosité d'autres croyants pour connaître un niveau de vie plus élevé, mais qui refuse de travailler pour gagner son pain. Oh, il explique qu'il préfère être disponible pour les activités de l'Église. Ça pourrait être peut-être le croyant qui, lors d'un camp chrétien, ne se porte jamais volontaire pour faire la vaisselle ou balayer dans la grande salle, mais qui n'hésite pas à critiquer publiquement les responsables pour leur mauvaise gestion des réunions. Ou le croyant qui n'aime pas la façon dont les activités de l'Église en semaine sont organisées et décide de mettre sur pied des activités parallèles, rivales on pourrait dire, parce qu'il essaye de recruter des membres de l'Église pour ses activités, et cela malgré la désapprobation des anciens. Le croyant qui est jeune retraité, qui a un peu de temps, et il dit librement à tout le monde qu'il veut utiliser son temps pour prêcher dans l'Église. Il critique les responsables de l'Église pour leur refus de lui donner cette occasion de prêcher. La croyante qui est membre chez nous, mais fréquente assez souvent une autre communauté dont les enseignements ne sont pas conformes à notre confession de foi sur quelques points secondaires. Elle explique que cette autre communauté offre plus de buzz, d'ambiance, ça bouge plus là-bas. Et elle entraîne d'autres membres de notre Église à sa suite. Le croyant qui préfère papillonner entre plusieurs églises et avoir voix au chapitre dans chacune d'entre elles, mais sans devenir membre où que ce soit. Il préfère ne pas avoir de compte à rendre. Mais il veut toujours avoir raison, et son attitude laisse à désirer. Le croyant qui passe son temps à faire du lobbying parmi les membres de l'Église pour que le maximum de personnes se rallient à son point de vue sur le parti politique qu'il faudrait soutenir, ou sur le type d'instrument de musique qu'on devrait permettre à l'Église. La croyante qui est désœuvrée et n'attend que les moments de rencontre de l'Église. Elle veut accaparer le temps de parole à toute occasion, tant de questions, tant de prières, réunions de membres. Elle est à l'aise pour dominer ces moments. Le croyant qui veut faire la loi à toutes les dames de l'Église pour qu'elles ne portent pas de maquillage. La croyante très active sur les réseaux sociaux parce qu'elle a le temps. qui critique l'Église sur Facebook parce que la posture assumée par les membres lorsqu'ils prient ne serait pas biblique. Des indisciplinés, nous devons éviter tout contact rapproché avec eux. Sans doute en partie parce que nous devons éviter de nous laisser influencer par eux. Est-ce que vous vous souvenez de l'exhortation que nous avons entendue la semaine passée à partir du passage précédent? C'était l'exhortation à vivre de façon stable, affermie. Cela veut dire, entre autres, éviter de vivre dans l'indiscipline. Concrètement, eh bien, revenons au cas précis qui posait problème à Thessalonique, le travail. Numéro 2, nous devons suivre l'exemple de Paul en matière de travail. Nous devons suivre l'exemple de Paul en matière de travail. Les versets 7 à 10. Il s'agit du deuxième engagement dans le code déontologique. Paul avait le droit d'être rémunéré pour son travail en tant que serviteur de la parole de Dieu, mais il a voulu poursuivre son travail de fabricant de tentes, entre autres pour que les Thessaloniciens puissent comprendre la mise en pratique de ce principe. Si l'on veut manger, on travaille, on gagne son pain. Ce principe n'est pas difficile à comprendre, et les versets 7 à 10 ne sont pas difficiles à comprendre. Mais quelle contre-culture! D'abord parce que notre société valorise les gens en fonction du prestige de leur travail, de leur responsabilité, de leur salaire. Cela crée le risque qu'on refuse d'accepter tel ou tel travail si l'on estime que cet emploi n'est pas digne de soi. Si j'ai plusieurs diplômes, est-ce que j'ai l'humilité de passer mon temps à remplir les rayons chez Colruyt? Une seconde raison pour laquelle les versets 7 à 10 vont à l'encontre de la culture, c'est le matérialisme ambiant dans notre culture, ce qui fait que beaucoup de personnes travaillent en vue de connaître un mode de vie de plus en plus agréable, un niveau de vie de plus en plus élevé, un train de vie de plus en plus extravagant. Et du coup, on peut perdre le lien entre gagner un salaire et subvenir à ses besoins. Bien sûr, je sais que ce n'est pas un lien absolu dans la mesure où on peut avoir une activité non rémunérée, y compris éduquer ses enfants. Si tu es en train de te commencer à te sentir coupable parce que tu ne travailles pas, merci de jeter un œil à la fin du verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Si tu ne peux pas travailler, bien sûr, il ne faudrait pas te sentir coupable parce que tu es dans l'incapacité de travailler. Et si c'est le cas, je ne veux pas aggraver ta peine. Tu es peut-être malade, tu es peut-être en train de souffrir parce que la recherche d'un travail long et pénible. Je souffre pour toi. Mais normalement, là où c'est possible, nous devons marcher sur les traces de Paul en gagnant notre pain. Peut-être que nous croyons, risquons de penser que travailler n'est pas exactement spirituel. Mais l'apôtre Paul répondrait non, travailler fait partie du cadre d'une vie stable, correcte, saine. Et si vous avez suivi les études bibliques du jeudi soir, vous savez que nous avons été créés pour cela. Et le travail existera encore dans le monde à venir. Et donc, numéro 3, les indisciplinés doivent mettre leur vie en ordre. Et nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Les indisciplinés doivent mettre leur vie en ordre. Et nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Les versets 11 à 13. un homme en Australie, on va l'appeler Fred, s'est converti il y a pas mal d'années. Gloire à Dieu, sa vie dissolue a été progressivement transformée par le Seigneur. Il a pris l'habitude de lire les Écritures régulièrement. Et il est tombé sur ce passage de 2 Thessaloniciens 3. Et il s'est dit, c'est assez clair. Il me semble que je devrais essayer de trouver un travail. Et donc, il s'est rendu auprès de son pasteur et il a demandé, pasteur, j'ai lu 2 Thessaloniciens 3, est-ce que je devrais chercher un travail? Et son pasteur, qui en l'occurrence est un ami à moi, il a dit oui. Et donc, il est allé chercher un travail tout de suite. Il a trouvé quelque chose qui n'était pas spécialement valorisant, on peut dire, pas très prisé, on va dire. Il est vrai qu'il n'est pas resté très longtemps dans ce travail. Et il a trouvé ennuyeux et puis il s'est formé en vue d'un autre travail par la suite. Mais il y a quelque chose de très beau dans la simplicité d'obéissance à la parole de Dieu, là. La parole de Dieu dit que je devrais travailler, donc je cherche un travail. Un indiscipliné doit mettre sa vie en ordre. Ce qui est en jeu, c'est la paix qui règne au sein de l'Église. Vous voyez dans les versets 11 et 12 le contraste. D'un côté, vivre dans l'indiscipline, s'agiter, se mêler des affaires des autres, et d'un autre côté, travailler paisiblement, lisons-nous. Mais notons-le bien. Ce troisième engagement ne concerne pas uniquement les indisciplinés. Verset 13, nous devons toutes et tous faire preuve de patience en continuant à faire le bien. Pourquoi est-ce que Paul ajoute cette injonction en cet endroit-là, verset 13? Qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Lorsque semaine après semaine, ne serait-ce qu'un seul frère indiscipliné, ne serait-ce qu'une seule sœur indisciplinée, est régulièrement là dans les parages, ça peut être lassant. On a envie que le frère, la sœur nous laisse tranquille et cesse de perturber la vie de la communauté en parlant de la nécessité que les dames ne portent pas de maquillage, etc. On a envie de chasser l'indiscipliné. Et même si l'on n'est pas soi-même indiscipliné, il y a le danger qu'on dérape, qu'on se mette en colère, qu'on commence à tenir des propos, qu'on regrette plus tard, qu'on surréagisse par frustration. À ce moment-là, c'est notre comportement qui menace la paix de l'Église. Et donc, Paul doit insister là-dessus. Frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire le bien. Ou selon les termes de ce qu'on a entendu la semaine passée. Et Jonathan nous a rappelé cela déjà, verset 15 du chapitre précédent. Ainsi donc, frères, tenez ferme et restez attachés aux traditions que nous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés, il nous a donné par grâce un encouragement éternel et une bonne espérance, vous encourage et vous affermisse en toute œuvre bonne comme en toute bonne parole. Et le dernier verset du passage précédent, 3:5, donc, juste avant notre passage, que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et la persévérance du Christ. Si nous devions être frustrés par telle ou telle personne indisciplinée, il ne nous appartient pas de réécrire le code déontologique. Au contraire, nous devons suivre le code qui nous est livré dans ce passage. Cela va vouloir dire, entre autres, ne pas nous lasser de faire le bien nous-mêmes. Et cela veut dire numéro 4 aussi. Numéro 4, nous devons repérer les indisciplinés et les avertir doucement. Nous devons repérer les indisciplinés et les avertir doucement, les versets 14 et 15. Repérer les indisciplinés, ça veut dire que les membres doivent savoir qui est dans cette catégorie d'indisciplinés. Ce passage ne mentionne pas le rôle des anciens, ce qui nous permet de comprendre que ce code déontologique est l'affaire de nous toutes et tous, membres de l'Église. Nous ne pouvons pas nous soustraire à tout problème de ce genre en arguant du fait que ce soit les anciens qui dirigent l'Église et moi, je m'y intéresse pas. Non, mais en même temps, d'autres passages parlent bien du rôle de responsabilité assumé par les anciens. Et dans notre mode de fonctionnement à l'Église, ce type de question doit être porté à l'attention des anciens. Ils tiennent les membres au courant, ils font appel à nous membres pour que nous prions, ils évoquent ce type de sujet dans le cadre des réunions de membres. Et dans mon expérience de 14 ans maintenant de vie de membre, je dois dire que les anciens remplissent ce rôle de façon exemplaire à la gloire de Dieu. Donc, lorsque nous lisons « Si quelqu'un n'obéit pas, repérez le bien », il me semble que cette démarche-là ne peut faire l'économie des anciens. Mais pour le reste de ce quatrième engagement du code déontologique, nous devons faire face à quelque chose de difficile. Non seulement nous tenir à distance, nous avons déjà compris cela grâce au verset 6, mais encore avertir. La deuxième moitié du verset 14. N'ayez avec lui aucune relation pour qu'il ait honte. Ne le considérez cependant pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Dans d'autres textes relevant de la discipline d'Église, on a affaire à quelqu'un qui se nomme frère, mais il y a un doute sur la question de savoir s'il s'agit vraiment d'un vrai frère. Ou bien on a affaire à quelqu'un qui doit ne pas être traité comme un frère. Mais ici, il s'agit de quelqu'un qui est bel et bien un frère ou une sœur. Et cela doit jouer dans notre façon d'aborder la personne, pas un ennemi. Oh, frère, je suis désolé, mais je ne peux pas te rejoindre dans ce que tu fais là. En fait, c'est même hors limite. Ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Je dis ça humblement, mon frère. Je sais, le péché me colle à la peau, à moi aussi. Mais je dois t'encourager à mettre ça en ordre. Nous sommes toujours frères en Christ, mais ça crée un froid entre nous. Et j'aurais tellement envie de jouir d'une pleine communion avec toi, comme on l'avait connu par le passé. Notre souci est d'engendrer la repentance en vue de la restauration complète. Et si la repentance n'a pas lieu, ne doit-on pas passer à l'exclusion tôt ou tard? Pour d'autres types de péchés, certainement. Pour un indiscipliné, le texte ne va pas jusque-là. La patience dont Paul a déjà fait preuve est remarquable. Verset 10, il y a eu des avertissements donnés à plusieurs reprises aux indisciplinés de Thessalonique. Et je vous rappelle ce que nous avons vu dans 1 Thessaloniciens, ce problème n'est pas nouveau. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, deuxième moitié du verset 10. Mais nous vous encourageons, frères, à progresser encore, à mettre un point d'honneur, à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous en avons donné l'injonction. Les mêmes soucis là déjà, les mêmes soucis que dans notre passage, déjà au préalable. Et même à ce moment-là, ses soucis n'étaient pas nouveaux. Patience, patience. Respecter le code déontologique risque d'être difficile. Parce que par tempérament, certains d'entre nous vont avoir naturellement envie que les indisciplinés soient totalement exclus ou bien peut-être totalement accueillis. Mais dans le cas d'un indiscipliné, nous nous trouvons dans une voie médiane, ni gravissime, ni mineure, ni excommunié totalement, ni fermer les yeux, ni éviter tout contact, ni entretenir des relations de proximité. L'un des spécialistes nous aide en employant cette image. Les indisciplinés sont les brebis galeuses de la famille. Voilà donc un code déontologique pour la paix au sein de notre Église. Nous devons éviter tout contact rapproché avec des indisciplinés. Nous devons suivre l'exemple de Paul en matière de travail. Les indisciplinés doivent mettre leur vie en ordre et nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Nous devons repérer les indisciplinés et les avertir doucement. Et c'est un code qui marche. J'ai en tête un frère qui a dû passer par ce type de discipline et il s'est révélé humble pour se repentir. Aujourd'hui, un frère exemplaire, c'est glorieux. Si l'on respecte ce code et l'Église est en paix, nous sommes davantage armés en tant que communauté face à la persécution. Nous sommes davantage en mesure de faire honneur à l'Évangile en présence de personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et ces soucis, on les trouve dans ces lettres aux Thessaloniciens. Donc c'est glorieux. Mais j'ai malheureusement un autre cas à l'esprit où le frère s'est entêté et ne s'est jamais repenti, même s'il ne fait plus partie de l'Église en question. Et donc, on a envie de savoir comment faire le maximum, comment veiller à ce que ce code soit respecté, mis en pratique. Eh bien, il ne faut jamais perdre de vue l'Évangile. Cela doit être notre motivation. Juste avant notre passage, encore 3 à 5, Paul prie que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et la persévérance du Christ. Nous sommes bénéficiaires de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu à notre égard, démontré par la mort de Jésus-Christ à notre place. Le chapitre 1er parle de la destruction éternel que nous aurions mérité et à laquelle nous échappons parce que nous sommes rattachés au Christ. Quelle grâce! Si nous ne sommes pas indisciplinés, cela aussi c'est par pure grâce. Si nous ne nous lassons pas de faire le bien, cela aussi c'est par pure grâce. Grâce, Dieu nous rend capable de faire preuve du même genre de persévérance que le Christ. Il dirige notre cœur dans ce sens par la puissance de l'Évangile. Avez-vous remarqué la formule que Paul emploie au verset 6 et au verset 12 ? Nous vous enjoignons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 12, nous enjoignons à de tels gens, nous les y encourageons dans le Seigneur Jésus-Christ de travailler paisiblement et de manger leur propre pain. La paix de l'Église est un cadeau qui provient de Dieu, qui découle de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous sommes dépendants à l'égard du Seigneur Jésus-Christ pour que cette paix soit conservé. Et donc, nous nous tournons vers lui, le Seigneur de la paix. Vous voyez, verset 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Et verset 18, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.